Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
Nous, on ne voit rien, en fait, hein, quand l'artiste monte sur scène. Moi, je vais avec ma petite facture, enfin, avec mon devis, ma facture, et je vais discuter avec le producteur ou le représentant de la production pour établir la facture, pour établir les comptes et faire en sorte que le reste de la soirée se passe bien, que n'y ait pas trop de discussions. J'ai des souvenirs d'avoir croisé David Bowie sur la grande scène. Il était avec Iman Bowie, il était avec son épouse, et rien que de croiser son regard, on est sous le charme. Enfin, il avait un charisme exceptionnel. Alors Oasis, par exemple, ils avaient demandé des M&M's verts.
Sylvie Chauchois dirige entre autres le Zénith de Strasbourg, le plus grand de France. Elle va nous raconter comment on gère une entreprise aussi particulière, comment on fait briller les autres sans se mettre en scène, comment on passe de 4 salariés à 110 coéquipiers pour une soirée, comment on reçoit 400 000 personnes par an. Cette ancienne nageuse, entraîneuse d'un centre de haut niveau, côtoie des vies d'artistes depuis longtemps. Des Eurocaennes de Belfort jusqu'au Zénith de Strasbourg, Bordeaux, Dijon et bien d'autres salles qu'elle dirige, Sylvie maîtrise discrète. Un trait de caractère, la discrétion chez cette femme surprise de recevoir la Légion d'honneur pour son parcours exceptionnel. Aujourd'hui, Sylvie monte sur le podium et nous partage son expérience. Bonjour Sylvie.
Bonjour, merci d'être là.
Merci à vous surtout. Alors Sylvie, vous allez nous raconter, déjà on est très curieux de savoir comment on gère une entreprise comme le Zénith. C'est pas une entreprise comme les autres.
Non, c'est pas une entreprise comme les autres, mais je pense que diriger, c'est s'encadrer de compétences. Et tout seul, on peut pas faire grand-chose, même si nous ne sommes pas beaucoup aux Zénith de Strasbourg, puisque nous ne sommes
que 4. Vous êtes 4, ouais.
J'ai des compétences autour de moi, des collaborateurs fiables et fiers d'être là et de diriger avec moi l'ensemble des processus pour l'ouverture et la programmation du Zénith.
Alors c'est quoi diriger un Zénith? C'est accueillir déjà beaucoup de monde. Vous êtes le plus grand Zénith de France à Strasbourg.
C'est ça. Alors c'est le plus grand Zénith à 12 000 personnes. Il n'y a pas d'autres Zénith de plus grand. Il y a des arénas ensuite. Hein, les autres programmes immobiliers étaient des arénas. Et cet équipement a été choisi donc à l'époque en 2000, je crois, ou en 2002, par l'Eurométropole de Strasbourg. C'est un bâtiment donc, qui appartient à l'Eurométropole. Nous avons un contrat avec l'Eurométropole.
C'est le cas pour toutes les villes, ça ?
En général, où il y a beaucoup de délégations, ce qu'on appelle les contrats de délégation de services publics, puisque la collectivité estime qu'elle préfère mettre des professionnels à gérer ce genre de bâtiment plutôt que d'embaucher des salariés municipaux. Elle ne saurait pas faire, elle ne saurait pas avoir une réactivité aussi grande que dans le privé. Et donc nous avons un contrat depuis l'année 2008, nous avons donc 15 ans d'existence aujourd'hui, nous avons été renouvelés à chaque fois, le groupe Espace TSE et l'entreprise SNC Zénith de Strasbourg gère ce bâtiment, ce paquebot je dirais, depuis 15 ans, on a été renouvelés 3 fois et là nous avons re-signé pour 10 ans, nous sommes là jusqu'en 2029.
D'accord. Et alors, le Zénith, c'est une invention française, ça c'est...
Oui, absolument. Ça date de 1981, François Mitterrand, Jack Lang, et la volonté pour le monde du spectacle d'avoir des équipements adapté pour accueillir des artistes. C'est-à-dire que avant 80, les artistes étaient accueillis dans des parcs expo sans acoustique, dans des équipements de toile, dans des chapiteaux. On a vu ça sur nos places publiques quand on était petit. Et donc il y a eu une volonté vraiment politique de Jack Lang de créer des équipements type Zénith avec un cahier des charges très précis pour l'accueil des artistes, des producteurs, pour pouvoir faire de la cantine, pour pouvoir accueillir le public dans de bonnes conditions, avec des sanitaires adaptés en fonction des jauges, être modulable aussi, puisque nous on peut accueillir jusqu'à 12 000, mais on peut aussi accueillir une jauge de 2 000, on sait faire, avec des jeux de rideaux, on arrive à fermer, à faire une petite boîte noire. Donc voilà, c'est vraiment le concept Zénith qui, donc aujourd'hui en France, il y en a 17. Nous sommes l'un des derniers à Strasbourg.
L'un des plus récents, vous voulez dire?
Oui, enfin des plus récents qu'il y a 15 ans, mais derrière nous, il y a eu celui d'Amiens, et il y en a eu encore un autre, un ou deux, mais on était vraiment à la fin de ce concept, de ça.
Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi?
Maintenant, aujourd'hui, on fait des arénas.
Ah d'accord, je croyais qu'arénas, c'était plus grand, non?
Non, oui, pas c'est, forcément oui, en général, c'est plus grand. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus grand. Et c'est surtout adapté pour faire du sport-spectacle. Ah. C'est-à-dire pour avoir également du sport. Okay. Pour avoir des matchs de basket, du tennis, du handball. Ce qui manque aujourd'hui à Strasbourg. Et c'est pour ça que le Rhénus va être voilà, refait, mmh, le stade mmh. de foot va être refait, et voilà, les Zénith. Mais c'est vrai que à dix ans près, sans doute que la collectivité aurait peut-être construit une aréna.
Alors, comment vous arrivez à devenir directrice du Zénith de Strasbourg ? Alors, d'abord, moi, j'ai une question. Être directrice d'un Zénith, c'est déjà côtoyer des artistes tout le temps ?
Oui, alors on croit hein, que je bois du champagne avec les artistes tous les soirs, mais non. C'est... Alors je dirais que je les côtoyais beaucoup plus quand j'étais à Belfort, aux Hurricanes de Belfort.
Ah, ça, vous allez nous raconter.
Et dans la salle que je programmais. Moi, j'ai toujours respecté la loge, le coin loge. Pour moi, à un moment donné, quand l'artiste arrive, il est chez lui, donc on ne va pas le déranger. Donc,
mais vous l'accueillez quand même ?
Pas toujours.
Ah, pas
non,
toujours.
Non. Les artistes, ils sont là pour bosser et ils n'ont pas forcément envie d'être dérangés. Une fois qu'ils arrivent dans la loge, ils arrivent souvent au dernier moment. Enfin, ils arrivent, il est 17h, 16h, 17h, ils font la balance et ils ont un petit rituel, ils vont dans la loge, ils vont faire une petite sieste ou ils vont manger un truc.
Il n'y a pas de répète.
Si, c'est la balance, qui est à 17h à peu près. Et puis après, bah, ils attendent que le public arrive, que la salle soit remplie, ils ont des échauffements de voix, etc. Il n'y a pas forcément un moment où ils disent, bon, allez, je vais aller dire bonjour au directeur ou à la directrice de salle. Et,
d'accord.
Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui va aller forcément taper à la porte pour dire, c'est moi que voilà et je suis la directrice de la salle. Et voilà. Si je les croise, oui, je peux les croiser. Je vais les croiser à la cantine, je vais les croiser quand on va faire les comptes, parce que dans ce métier, on fait les comptes au cul du camion, comme on dit. Je vous
donc le soir, après le spectacle
voilà. Pendant le spectacle.
Pendant le spectacle.
Ouais, c'est-à-dire que nous, on voit rien, en fait. Hein. Quand l'artiste monte sur scène, moi, je vais avec ma petite facture, enfin, avec mon devis, ma facture, et je vais discuter avec le producteur ou le représentant de la production pour établir la facture, pour établir les comptes et faire en sorte que le reste de la soirée se passe bien, que je n'y ait pas trop de discussions.
Parce que c'est pas discuté avant le
si, c'est discuté, le contrat est signé, le devis est signé, la compte est versée, mais le producteur essaye toujours de rabioter quelque chose. Que ça marche ou que ça marche pas, il faut toujours que la salle fasse un petit quelque chose.
Ah
et,
ouais.
Et à Strasbourg, ils ont jamais grand-chose.
C'est d'usage.
Ouais, c'est d'usage.
C'est d'usage,
mais bon, c'est de plus en plus difficile. Ouais, c'est ce qui est à la limite le plus contraignant aujourd'hui, c'est la discussion de la facture, parce que c'est dur pour tout le monde.
Ouais.
C'est-à-dire que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, les spectacles sont en vente depuis un an et demi. Donc quand la billetterie, le montant du billet a été établi sur un certain budget de production et donc un nombre de dates de tournée, il n'y avait pas l'inflation qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas le coût des fluides importants, le coût du carburant pour les semi-remorques, etc. Et donc ils ont établi un billet à 50 euros, imaginons, mais peut-être qu'il fallait le vendre à 53 pour pouvoir équilibrer le coût du soir.
C'est ça.
Donc
ça discute. Pas prévu.
Donc, actuellement, ouais. Ça discute vraiment beaucoup. Ouais.
D'accord. Salle comble, en général, c'est salle comble ?
Alors, on a une moyenne de 4 500 à 5 000 personnes. Des 12 000, on en fait 10 par an, à peu près.
Ça, c'est les grandes affiches.
Ça, c'est les grandes affiches, ouais. Mais on a un équipement qui permet, pour un concert à 5 000 personnes, par exemple, de travailler confortablement, de gagner du temps au montage, au démontage. Les producteurs aiment bien venir dans cette salle parce qu'elle est très facile d'accès. Il y a 3 grosses portes camions. Donc, les semi-remorques rentrent dans la salle. Hein, c'est toujours un peu difficile à imaginer, mais les semi rentrent dans la salle. On décharge, on ressort la semi, on en fait rentrer une autre. Donc, il y a une noria de camions comme ça le matin. Et ils accrochent ensuite sur un grill technique qui est un bijou qui est unique en France et qui leur permet vraiment de travailler dans de très bonnes conditions et de façon rapide. Ils gagnent, au démontage, ils gagnent facilement une heure ici par rapport à notre équipement.
Comment vous avez appris ce métier ?
Alors, je l'ai appris sur le tas. Moi, je pensais pas faire ce métier du tout. Il n'y avait pas d'école. De toute façon, en 1990, il n'y avait pas d'école de spectacle. En 80, quand j'ai fait des études, je suis tombée vraiment dans le spectacle par hasard. Je cherchais du boulot à Belfort. Je faisais des ménages.
Vous êtes originaire de Belfort.
Alors, je suis née à Lille. J'ai grandi à Lille. Je suis une ch'timi. Pure souche. Et j'ai grandi en Picardie. Et ensuite, je me suis donc investie dans la natation et je suis partie à Lyon.
Donc investie dans la natation
en tant que nageuse.
Secondes, ouais.
Voilà. J'étais nageuse de compétition et puis
c'était votre objectif.
C'était mon sport. C'était mon
sport. C'était votre souhait de devenir nageuse professionnelle.
Oui, c'est ça. Et puis, en vieillissant, je me suis intéressée à l'entraînement. J'ai été maître nageur à la piscine de Saint-Quentin, dans l'Aisne, pendant 3 ans. Je me suis très, très vite ennuyée d'être assise sur un bassin tout au long de la journée. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Et en parallèle, donc, j'entraînais des nageurs le soir. Et j'ai eu la possibilité de rejoindre l'entraîneur de l'équipe de France, à l'époque, à Lyon, Michel Paulin. Et je suis partie, donc, en 84, à Lyon, entraîner avec lui le centre de haut niveau. Et lui, il entraînait l'équipe de France. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai rencontré mon mari à une formation de deuxième degré d'éducateur sportif. Lui, il était handballeur, entraîneur de handball de l'équipe 1 à Belfort. Et donc moi, j'étais sur Lyon. Et puis, il devait me rejoindre sur Lyon. Et finalement, Jean-Pierre Chevènement, qui était le maire de Belfort, lui a demandé de rester à Belfort. Et donc, il m'a dit, ta copine, on lui trouvera du boulot. Fais-la venir à la piscine de Belfort. On va l'embaucher. Et après avoir démissionné de Lyon, je me suis retrouvée à Belfort sans travail parce que la piscine a été fermée pour des raisons techniques. Ah. Donc, je me suis retrouvée au chômage en 1988-89. Donc, j'ai fait des petits boulot, j'ai fait des ménages dans les hôtels. Donc moi, ma chambre d'hôtel, quand je la quitte, elle est toujours propre et les serviettes sont bien. Voilà, parce que j'ai tellement vu des chantiers quand je faisais du ménage dans les hôtels. J'ai gardé des enfants, enfin voilà, fallait bien manger. Et j'ai appris qu'ils cherchaient une secrétaire standardiste pour un festival qui s'appelait Festival Le Ballon. Le président du territoire de Belfort, Christian Proust, plus jeune président d'un département en France à l'époque, souhaitait faire un événement pour le bicentenaire de la Révolution française. Donc ça rappelle le défilé Goud sur les Champs-Élysées à l'époque en 89. Et donc j'ai postulé par hasard, comme j'ai postulé sur plusieurs postes, et j'ai été prise parmi d'autres pour être secrétaire standardiste au festival Le Ballon. Et donc ce festival est devenu en 89, Festival Le Ballon, en 90, il est devenu les Eurockéennes de Belfort. Et il est toujours les Eurockéennes de Belfort depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Et j'y suis restée 20 ans pour terminer directeur général des Eurockéennes de Belfort. Donc j'ai vraiment appris sur le tas. Le métier, enfin voilà, la confrontation voilà, aux problématiques qui vous font progresser finalement.
Et donc c'est à ce moment-là aux Eurockéennes, c'est vous qui choisissiez les artistes, qui les contactez?
Non. Alors les Eurockéennes c'est pareil, c'est une équipe. Hein. Nous étions au début 7-8, ensuite une dizaine, 12, et il y avait des programmateurs. Donc il y avait des programmateurs au début qui étaient intégrés au festival. Ensuite on les a externalisés avec des producteurs qui sont toujours en France aujourd'hui et que je côtoie moi maintenant au Zénith. Hein. Donc il y avait Jules Frutos hein, par exemple, qui est un gros producteur français qui vient programmer les années de temps en temps. Et donc, c'était soit internalisé, soit externalisé. Aujourd'hui, la programmation, elle est internalisée. Il y a un programmateur aux Eurockéennes de Belfort.
Il y a une musique qui vous rappelle un peu ce temps-là?
Ouais, les Eurockéennes, j'ai regardé la programmation il n'y a pas très longtemps. Sur les 20 années que moi, j'ai pu faire, il y a pas mal d'artistes décédés, mais je dirais, c'est l'année 1996, que je retiens particulièrement, puisque cette année-là, on a fait Noir Désir, David Bowie, Moby et Bachung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Ce sont vraiment des artistes phares qui sont... Bah, Bowie est venu qu'une fois aux Eurockéennes, mais Noir Désir, ils sont venus 4 fois, Moby est venu 2 fois, et voilà, le dernier, c'est Daft Punk, évidemment. au moment où, avec la pyramide, ils avaient investi la Seine. Là, j'ai des souvenirs, et cette année-là, 96, il y avait beaucoup de pluie, beaucoup de boue, c'était assez impressionnant. C'est vrai que les Eurockéennes ont toujours été associées à la pluie, à la boue, mais pourtant, quand on regarde le nombre des années, finalement, il y a eu autant de pluie que de soleil. Hein.
Ouais, on retient que la pluie.
Voilà, on retient que la pluie. Mais j'ai des souvenirs d'avoir croisé David Bowie sur la grande scène. Il était avec Imane Bowie, il était avec son épouse, et rien que de croiser son regard, on est sous le charme. Enfin, il avait un charisme exceptionnel.
Et ça, avec le temps, vous l'avez gardé.
Oui, oui.
Quand vous croisez un artiste, vous êtes toujours impressionné. Enfin, c'est peut-être.
Alors,
pas
j'ai
tous,
été impressionnée mais... par David Bowie. J'ai été impressionnée par certains concerts, par l'événementiel vraiment des concerts. Je me souviens d'un Joe Star qui était extrêmement en retard, qui s'était perdu dans la campagne de Belfort, et donc il était là avec NTM, et donc le show avait commencé et lui il était toujours pas là, donc il chauffait un peu le public, et il arrivait à toute blingue avec sa voiture dans la route qui desservait la loge. Il est sorti à fond la caisse de la voiture, il s'est mis au cul de sa voiture, il a ouvert le coffre, il s'est déshabillé, il est resté en slip, il a remis son costume de scène, il est monté et il a mis le feu en arrivant sur scène. J'ai toujours cette image de Joe Star qui monte sur beaucoup de marches parce qu'elle était très haute la scène, et donc il court dans ses marches et qui court sur le plateau, l'énorme plateau, pour aller mettre le feu, et l'embrasement du public et la poussière qui s'est soulevée d'un seul coup quand les gens l'ont vu arriver sur scène. J'ai ce souvenir là il y a plusieurs choses comme ça. On a fait James Bond qui dans sa fiche technique avait demandé une salle de bain carrelée dans les loges. Alors évidemment ce qu'on pouvait absolument pas faire. Ouais. Mais par contre on
pourquoi
avait bah parce que c'était une consigne comme ça, on avait des consignes et,
ça voilà. Ça arrive tout le temps des consignes de stars.
Oui, il y a des
ça.
Demandes un peu particulières. Alors Oasis par exemple, ils avaient demandé des M&M's verts. Que des M&M's verts dans les loges.
Il fallait les trier.
Et en fait, il y avait certaines choses qui sont demandées dans les fiches techniques. Ce sont des tests comme ça pour voir si les gens de la salle ou les gens ou le régisseur, enfin les gens qui vont les accueillir, lisent la fiche technique.
Ah.
Parce que c'est pas parce qu'ils voulaient manger que les verts, mais c'était pour voir si on avait bien décortiqué leurs demandes et que a priori ils auraient tout ce qu'ils avaient demandé.
Ah, et vous avez voilà. Donné des M&M's verts.
Ah bah ils avaient que des verts. Je m'occupais des loges avec les filles et les chauffeurs. Ouais. On a fait ce qu'ils nous a demandé. Voilà. On avait lu la fiche technique.
Par moment, ça doit être quand même
drôle.
Alors la salle de bain carrelée, vous avez pu le faire?
Non, on l'a pas fait. Mais par contre, on a cédé sur une chose, c'est que...
Mais James Bond, c'est-à-dire
James Brown.
Ah, James Brown. Pardon, j'ai entendu.
Et donc,
James
il avait demandé, vous savez, ces casques qu'on voyait avant chez les coiffeurs, où on descendait le casque sur la tête avec les bigoudis en dessous. Et ben, il avait demandé ça parce qu'il avait une choucroute sur la tête. Et ça, on lui avait acheté. Voilà. Et c'est resté longtemps dans les stocks des Eurockéennes, au-dessus, dans les greniers. Je me souviens, on le voyait très souvent.
C'est pareil au Zénith, vous avez ce genre de demande aussi spéciale?
Alors, je suis pas impliquée dans l'accueil de l'artiste à ce point-là.
Ah,
parce
c'était
que autant
plus
j'étais...
aux Eurockéennes.
Oui, aux Eurockéennes, j'étais vraiment chargée de la production, d'accueillir les artistes, de mettre en.
Là, vous
d'embaucher
les côtoyez
les équipes.
Tous à ce moment-là.
Oui, là, je les côtoyais. À Strasbourg, c'est différent. Enfin, le Zénith, c'est un producteur qui loue la salle et qui traite les demandes de l'artiste avec son public. Nous, on est là pour mettre en place la salle telle qu'il nous l'a demandé. On embauche le personnel pour l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Mais en tout cas, le traitement de la fiche technique, ce n'est pas moi qui l'a fait. Donc, des fois, j'entends des choses. Mais voilà, il y a un artiste qui nous demande de changer la pomme de douche quand il vient. Je ne vais pas dire qui c'est, mais voilà. On nous demande de changer la pomme de douche, par exemple.
D'accord. Donc, vous occupez plus de logistique aujourd'hui?
Oui,
comment on pourrait dire,
je m'occupe plus de logistique. Ouais. De logistique. Ensuite, j'essaie de vendre ma salle aussi auprès des producteurs lorsqu'on nous demande si elle est disponible, quel prix on va faire pour tel ou tel international. Donc voilà, on est aussi à rechercher la programmation, mais il y a quand même un automatisme de dire on va aller au Zénith de Strasbourg comme on va aller à Nantes, à Rouen ou à Dijon. Mm-hmm. Les Zéniths sont quand même dans une routine de tournée. Donc ensuite le producteur fait ce qu'il a à faire, il fait son travail d'accueil de l'artiste.
Oui, en fait tous les artistes qui font une tournée à Strasbourg, c'est quand même devenu maintenant un endroit où
oui.
C'est plus classique qu'avant.
Oui, c'est assez incontournable. Ce qui nous manque toujours, on a eu beaucoup d'internationaux à l'ouverture parce qu'il y avait l'effet d'ouverture, l'effet du bâtiment tout neuf, nouveauté. Ouais. Et les internationaux aujourd'hui, ben, ils choisissent beaucoup plus les salles. Alors souvent, ils arrivent d'Espagne et donc ils remontent côté ouest. Donc Nantes, Lyon, Lille, ils arrivent à récupérer les gros artistes, mais nous, on est un peu à l'extrême et souvent, on a du mal à défendre nos intérêts à Strasbourg et on est proche de l'Allemagne. Donc ils vont en Allemagne, ils ne vont pas forcément à Strasbourg. Donc c'est un peu notre difficulté. Voilà, c'est pour cette raison qu'on a moins d'internationaux aujourd'hui.
Et ça pourrait changer ou...
Mais en fait, il y a 20 ans, les pays de l'Est ne programmaient pas d'artistes internationaux. Et puis ils se sont ouverts au fur et à mesure, ils ont construit des salles aussi et ils ont des sponsors que nous n'avons pas le droit d'avoir en France, c'est-à-dire l'alcool et le tabac. Et donc, à l'étranger, les producteurs ont une garantie par la salle du cachet de l'artiste. C'est-à-dire que s'ils ne font pas complet ou s'ils ne font pas la jauge qu'ils souhaitaient, ils sont payés quand même. Ils arrivent quand même à garantir le cachet
partout
de l'artiste.
Partout à l'étranger, ça. Oui. Grâce aux sponsors.
Oui, grâce aux sponsors. Ce que nous, on n'a pas avec la loi E20.
Mais nous, on a d'autres sponsors, non ?
Ben oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Les artistes préfèrent avoir, comme maintenant...
Une garantie, en fait.
Oui, et puis aujourd'hui, il n'y avait que la France, l'Angleterre, l'Italie qui recevaient, les Allemands qui recevaient. Aujourd'hui, ça va vraiment loin dans les pays de l'Est. Et donc, ils ont toujours le même nombre de dates pour l'Europe. Donc, ils vont faire 2-3 dates en France au lieu d'en faire 6 ou 10 à l'époque. Voilà, donc c'est la rareté.
Et donc, vous avez une influence là-dessus ? Vous allez voir les producteurs ? Vous proposez la salle ?
Enfin, oui, bien sûr.
D'ailleurs, les salles, parce que vous avez plusieurs salles en gestion.
Alors, le groupe a plusieurs salles en gestion. En Zénith, nous avons le Zénith de Rouen, de Dijon, de Nancy. On fait des gros plein air à Nancy. On a des très gros plein air cet été. Zénith de Strasbourg. Et donc, on m'a confié la supervision, on va dire, de ces équipements pour le groupe. Une dizaine de salles pour le groupe, en plus du Zénith de Strasbourg. Et... donc effectivement, on essaie de vendre nos salles aux producteurs français, aux producteurs internationaux, et donc c'est une discussion permanente parce qu'on a aussi les concurrents qui se présentent. Hein, donc c'est celui qui sera le moins cher qui offrira le plus, quoi.
Ouais. Ouais. Donc vous vous déplacez, vous faites des salons, vous allez comment ça se passe ?
On va dans les festivals et puis on voit les producteurs. Il y a des réunions nationales aussi avec le syndicat, par exemple, qui nous permet de côtoyer les producteurs. Et puis on les appelle, on reste en contact, ouais, bien sûr.
Vous faites combien de spectacles par an ?
On fait à peu près en spectacle 80 spectacles et ensuite on a des événements aussi, hein. On fait le salon Mérévigne par exemple, la Japan Addict qui remporte un vif succès. Là ce week-end on a fait le gala des étudiants, le gala EM des étudiants, donc on a aussi d'autres événements dans ce Zénith et tant mieux, ça permet de boucler la boucle et d'avoir une activité de 100-120 dates à l'année.
Donc vous êtes sur le pont toutes les nuits ?
Alors, tous les spectacles, oui, quasiment. L'économique, on essaie de se partager ici avec l'équipe, mais c'est vrai que je suis...
L'économique, c'est-à-dire,
ce que j'appelle l'économique, les salons, voilà, ouais. Ce que j'appelle ce qui n'est pas spectacle. Mais en général, oui, je fais tous les spectacles, oui. Ouais. C'est mon job.
Vous disiez tout à l'heure que vous ne voyez rien du spectacle en plus.
Non, parce que quand l'artiste monte sur scène, c'est le moment où nous, on a entre guillemets fait une partie du job, c'est-à-dire que le public est installé, il regarde, donc voilà, les gens sont,
ça,
sont arrivés,
réglé.
Ça c'est réglé, l'artiste joue, ça c'est réglé. Donc on en profite pour aller manger un petit morceau, et ensuite on va voir le producteur avec la facture. Voilà, donc la facture est calculée sur la recette de billetterie, il nous transmet la recette du soir, on prend un pourcentage sur cette recette, plus les frais de sécu, de ménage, tout ce qu'il nous aura demandé, et il y a toujours une demande, une négo au dernier moment, ça fait partie du job. Alors, moi je cède pas souvent sur Strasbourg, parce que c'est un équipement qui coûte cher, les frais fixes sont importants, quand on ouvre la salle le matin, un équipement tel que celui-là, ça coûte cher, et puis on a aussi un loyer à verser à l'Eurométropole. Ils nous ont confié l'équipement contre une redevance annuelle qui est calculée sur notre chiffre d'affaires. Et donc, on doit tenir nos engagements avec la collectivité qui essaie de se retrouver aussi sur l'investissement qu'elle a pu faire de 80 millions en 2008. Donc, voilà.
Et donc, ça, c'est toujours vous qui traitez ? C'est toujours vous qui négociez ?
Oui, alors si le queue de facture n'est pas tout à fait réglé, ça va être Eric Gautreau, mon administrateur, qui va le régler, mais on l'aura cadré avant, en tout cas il y aura une discussion avec moi, mais sinon mon administrateur est capable de faire la facture aussi.
Et ça c'est l'expérience qui fait que vous arrivez à négocier, vous le faisiez déjà aux Eurockéennes ?
Non, parce que les Eurockéennes, il n'y avait pas de facture au cul du camion comme ça. Enfin, je veux dire, on achetait plutôt le groupe, hein, on payait le cachet du groupe, où il y avait une vente d'un contrat avec le producteur, et il n'y avait pas de négo autre. Enfin, il y avait une négo à la source avec le cachet, plus ou moins cher, mais ça, c'était fait souvent 6 mois avant le festival. Le jour du spectacle, c'est réglé. On paye le solde de l'artiste, voire même il est payé la veille. Donc il n'y avait pas. Non, le jour de manifestation.
C'était pas lié aux
fréquentations.
En fait.
Non. On s'occupait de toute la logistique globale du festival qui était très importante. Ici, quand l'artiste est monté sur scène, on n'a pas fini notre boulot. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est la grande différence au final.
C'est la grande différence.
Un artiste, bien sûr, vous allez sans doute les chercher, mais il y en a aussi qui toquent à la porte en disant j'aimerais bien, aux Eurockéennes, ou c'est peut-être les producteurs, comment ça marche?
Alors, aux Eurockéennes, il y avait. Je dirais que les producteurs essayent d'organiser une tournée de festival pour leurs artistes. Donc, ils tapent à la porte. Ouais, ils toquent vraiment pour essayer.
On aimerait bien
sur la grande scène, sur la petite scène, sur ça.
Et alors, ils négocient un artiste
en développement.
X chansons, une heure, enfin, comment ça marche?
Oui, ça négocie aussi le placement sur la journée, c'est-à-dire de jouer plutôt nuit. Alors comme l'été, je veux jouer après 22h parce que moi j'ai des effets lumière et tout.
Donc,
ça.
Donc tout le monde veut jouer.
Voilà, tout le monde veut jouer la nuit. Et il y a aussi des discussions entre non, moi je veux pas jouer avant lui ou c'est moi le plus fort, donc je vais jouer plutôt après elle. Enfin voilà.
Ah, il y a
des discussions de ce genre. Puis après il y a les capitales sur l'affiche. Est-ce que je suis en gros? Est-ce que je suis en moyen? Est-ce que je suis en petit? Je me souviens, ça discutait quand même souvent lorsqu'on faisait les réunions. Sur la casse, ce qu'on appelle casse, hein, en imprimerie de la taille du nom de l'artiste. Ouais.
Et ça, c'est en amont, c'est vous qui gériez ça?
C'est en amont. On le faisait en commun avec l'équipe de com. Ouais.
Mais là, vous avez quand même découvert la difficulté de gérer les égos de chacun, non?
Ah oui.
Parce que vous veniez du sport, c'était
pas au niveau dans lequel j'étais, je connaissais pas ça, mais au début, moi, je ne touchais pas à ça. J'ai commencé à avoir des responsabilités dans le festival au bout de 7-8 ans. Donc, au début, j'ai appris, j'étais une éponge, hein, j'écoutais, et puis, après, on se forme, et puis, on se casse la gueule, puis on monte, et puis, on prend des coups, et puis, voilà, on continue.
Le plus gros gadin qui vous est arrivé?
Je saurais pas dire. J'oublie assez vite, en fait, les gadins, je me redresse. On tombe 6 et on se relève 7 fois, en fait, hein, dans ce monde.
Non, mais on doit avoir des illusions, ou peut-être que vous vous imaginiez qu'un tel était super, et puis finalement, c'est pas le cas, j'en sais rien. Comment on voit ces artistes? On les voit toujours sur scène, vous les voyez backstage.
Oui, c'est sûr qu'on voit des choses, on entend des choses. Ce sont des saltimbanques qui, il faut imaginer qu'ils ne sont jamais. Quand ils sont en tournée, ils ont envie de retrouver leur univers. Ils ont des exigences parce qu'ils veulent répéter dans le calme, ils veulent personne, croiser personne.
Ça, c'est pas évident dans un festival.
Dans un festival, non, c'est plus difficile.
Parce que là, ils viennent, ils sont tout seuls.
Oui.
Donc, à la limite, le zénith est à eux.
C'est ça.
Mais dans un festival.
Dans un festival, c'est d'autres conditions. Ils vont jouer un peu moins longtemps que sur une tournée, par exemple. Et puis, ils vont être en formule où ils viennent pas avec la technique. C'est-à-dire que la technique, elle est quasiment inclue dans le prix. Et ils vont rajouter quelques effets. Mais on essayait d'avoir pas trop de technique à monter entre chaque artiste. Parce que là, c'est quand même des artistes qui s'enchaînent les uns et les autres. Donc, des changements de plateau en permanence. Alors qu'au zénith, non.
C'est un plateau.
La salle, elle est réservée pour l'artiste. Mmh. Il y a une première partie, mais qui va se mettre devant le rideau. Et puis l'artiste aura la scène pour lui pendant 2 heures. Quoi. C'est deux choses différentes. Un artiste ne va pas du tout avoir les mêmes exigences en salle, en tournée de salle, que sur un festival.
Il en a plus en salle?
En salle, il est chez lui. C'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il va avoir dans sa loge, c'est vraiment ce qu'il aura exigé avec le producteur sur toute la tournée, les conditions d'hôtel, de transport, une voiture, un avion, un truc. Voilà, il aura eu ces exigences-là au départ. Alors qu'en festival, il va s'adapter un peu à la météo, le plein air, à la roulotte qu'il va avoir en loge, ou alors une tente ou un gymnase à côté.
C'est carrément un gymnase.
Parfois, ça arrive qu'on aménage des loges dans un bâtiment qui est juste à côté, par exemple. Donc, c'est des équipements sommaires.
C'est une sacrée expérience.
Non, je ne pensais pas du tout faire ce métier-là. Moi, je n'avais jamais vu un spectacle en live. Lorsque j'ai assisté au premier concert en 1989, je ne savais pas ce que c'était. C'était Jean-Louis Aubert. J'étais dans ce qu'on appelle le layer dans la scène. J'avais droit à une heure de pause. J'avais briefé toutes les hôtesses et tout ça, on ouvrait l'accueil public, et puis j'avais une heure de pause, et donc je suis allée écouter le concert de Jean-Louis Aubert. Je me suis mis dans la ferraille, sur les côtés, et j'ai été soufflée par ce que j'ai vu, parce que je n'avais jamais vu un chanteur en vrai, on va dire.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais.
Le live, je ne connaissais pas. Moi, j'étais... Mes week-ends, je les passais sur les bords de piscine, en maillot de bain, donc je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un concert live.
Et alors, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné ?
C'est l'énergie des artistes et la communion avec le public. C'est vraiment ça qui m'a beaucoup surpris, voilà, qui m'a donné envie de continuer.
Qu'est-ce qui te fait nager contre le sens du temps ? Pour au fond pas toucher dans le contre-courant. Qu'est-ce qui te fait vouloir posséder, enfermer toutes ces images volages dans ta propre cage. C'est juste une illusion, la paix d'une sensation qui dirige tes pas et te montre du doigt où tu vas. Juste une illusion, comme une bulle de savon qui s'approche de toi, que tu touches du doigt, puis qui s'en va.
Donc c'est ça qui vous a donné le goût de...
Oui, absolument. C'était assez impressionnant de voir en vrai un artiste et l'arrière aussi, parce que du coup, je pouvais voir aussi ce qui se passait derrière et le montage le matin. Enfin, voilà, c'est...
Et son humeur et sa fatigue et son peut-être pas envie d'y retourner ou au contraire pas envie de lâcher.
Ce sont des gens comme nous, hein,
ouais,
qui sont un jour bien, un jour moins bien. Voilà.
Enfin, c'est presque des sportifs de haut niveau finalement.
Ah oui, ils sont obligés d'avoir une hygiène de vie et d'avoir un entraînement et une régularité dans les choses. Ça, c'est, je pense que c'est.
Donc ça a rejoigné un petit peu votre votre culture à vous,
ça,
non?
Ça aide. Le sport aide beaucoup dans la tenue, dans la rigueur que l'on doit avoir, dans les heures qu'on peut faire. Enfin, moi, je fais beaucoup d'heures ici, et donc c'est vrai que c'est indispensable d'avoir une hygiène de vie et un maintien physique. Ouais.
Vous faites beaucoup de sport?
Oui, je continue toujours de faire beaucoup de sport.
Ouais. Vous nagez toujours?
Je nage, je cours, je marche. Ouais. Ça fait partie de ma culture et de mon
équilibre.
Votre équilibre, oui, ouais, j'en ai besoin. Ouais.
Alors, justement, cette époque de la natation, quand vous y renoncez, c'est sans regret, vous vous plongez dans ce nouveau monde du spectacle et...
Non, j'ai eu du mal à oublier. Je n'ai d'ailleurs pas oublié l'entraînement avec des nageurs. Enfin voilà, les emmener au bout d'eux-mêmes, les accompagner dans ce qu'ils pouvaient faire de mieux avec le corps qu'ils avaient. J'entraînais trois fois par jour. Hein,
Trois fois par jour.
Oui, les nageurs venaient trois fois et à 7h du matin, on les entraînait à 12h30 et ensuite le soir à 18h30. Donc ils étaient dans un sport-études.
Oui, c'est ça, j'allais demander.
Voilà.
Ouais.
Et donc ils étaient accompagnés. On avait mis en place des navettes. Et
vous aviez fait un sport-études?
Non, j'ai pas fait de sport-études du tout. Mais c'était après des entraînements aussi des footings, de la muscu et puis les compétitions tous les week-ends, les compétitions, les stages de natation. Enfin voilà.
Donc pour vous à cette époque-là, c'était sport du matin au soir.
C'était sport tout le temps. Oui, c'était sport tout le temps avec eux. Ouais.
Et avec la même envie, c'est-à-dire c'était plus vous qui étiez dans le bassin, peu importe.
Ah oui, non, peu importe. Au contraire, j'avais rendez-vous avec mes nageurs. J'étais contente de me lever, voilà, à 6h pour les accompagner à 7h et de les aider à performer, quoi, être au fond d'eux-mêmes. Et voilà,
c'est pas si différent ce que vous faites aujourd'hui. Parce que vous vous couchez à pas d'heure pour accompagner les artistes qui sont...
Oui, si on veut, mais bon, ils sont pas artistes... Enfin,
ils sont pas artistes grâce à vous, mais ils vont donner peut-être le meilleur d'eux-mêmes en spectacle au Zénith grâce à vous.
On fait en sorte, effectivement, en équipe, moi j'insiste vraiment sur le fait qu'on travaille en équipe pour que l'artiste soit au mieux de lui-même, qu'il ait le chauffage adapté, qu'il ait le public le mieux placé possible, qu'il n'y ait pas de trous dans la salle, que tous les gens soient...
Parce qu'il le voit, ça.
Ça, il le voit, surtout que nos chaises oranges, hein, donc quand il voit un trou devant lui, donc on essaie de boucher les trous avec les hôtesses, etc. Donc on est toute la famille du Zénith, voilà, les gens qui travaillent pour accueillir l'artiste sont vraiment, ont à cœur de faire en sorte que tout se passe bien à tous les niveaux.
Alors justement, cette famille... on va dire que tous les jours à table, vous êtes quatre.
Oui, c'est ça.
Et d'un coup, il va falloir ouvrir à beaucoup, beaucoup de monde.
Effectivement. Donc on
comment on manage ça?
On a des prestataires avec lesquels on travaille toute l'année, qui sont investis autant que nous.
Donc, c'est pour les hôtesses, c'est pour
les barmanes,
la sécurité,
les SIAP, ce qu'on appelle le service incendie. Ensuite, il y a aussi tout le service road, aménagement technique de la salle. Et donc, on a de la plus petite jauge à la plus grande jauge, plus ou moins de monde à chaque fois. Et donc, ce sont des prestataires de services qui
mais que vous choisissez, comment...
Oui, que l'on choisit et que l'on fidélise. Vraiment une grande satisfaction du personnel qu'on a aujourd'hui au Zénith.
Donc là, il y a un briefing avant oui. le spectacle. Comment
c'est ça.
Ça se passe?
Donc, 2 heures avant l'ouverture des portes, on réunit les chefs de chaque service. On les informe du déroulement de la soirée.
Est-ce qu'il y a un entracte?
La jauge, l'entracte, voilà, la première partie, s'il y en a ou pas, à quelle heure va monter l'artiste, à quelle heure il va sortir, est-ce qu'il y a un accompagnement particulier à sa sortie de scène, est-ce qu'il y a des signatures après, est-ce que, voilà, des consignes toujours. Et donc, ensuite, les chefs vont briefer, eux, leurs équipes. La soirée se déroule, on est en relation avec les talkies, et on est là au cas où. Ensuite, eux, ils font leur boulot et nous, on est là en soutien,
s'il y a
quelque chose. Voilà.
Et il y a combien de personnes alors, en général?
On peut aller jusqu'à 150 personnes sur des grosses jauges.
150 personnes.
Oui. C'est des gros équipements.
Donc là, c'est quand même, vous avez aussi appris le management.
Oui. Est-ce que c'est naturel ou est-ce qu'on l'apprend? Je pense qu'on l'apprend aussi, on affine au fur et à mesure des années. Mais l'équipe autour de moi fait aussi en sorte de manager les gens sous leur responsabilité. Ouais.
Et quand vous avez sous votre gestion le Zénith de Dijon, le Zénith de Bordeaux, le Zénith ou la ville de Nancy, vous m'aviez
oui.
parlé tout
bah,
à l'heure.
Je suis en soutien du directeur qui est sur place, ou la directrice qui sont sur place, qui sont là depuis plusieurs années, qui connaissent très bien leur métier aussi. Et donc, je suis en soutien, je les accompagne s'ils ont un problème sur une négo particulière, sur une problématique, un accident qui a pu avoir dans la salle. Oui, je me déplace aussi, je vais les voir en exploitation ou hors exploitation. Et là, sur les plein air de Nancy que l'on a cet été, on a Muse, par exemple, Indochine, c'est complet. Donc là, je vais te donner un coup de main. Enfin, moi, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Je suis aux côtés des équipes et voilà, je mets les mains dans l'événement. Enfin, je suis vraiment impliquée dans les événements. Je suis aux côtés de mes équipes avec le talkie et je suis avec eux, quoi.
Ça, c'est depuis toujours.
Bah, toujours. J'ai toujours eu les mains.
C'est votre formation.
Ouais,
final,
c'est ça. Voilà. Hein, ouais, hein. C'est ça. J'ai été sur le terrain.
Quel est le tempérament qu'il faut avoir pour ce type de métier?
En premier lieu, il ne faut pas être une groupie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas monter dans le bus, comme je dis parfois. C'est-à-dire que.
Il ne faut pas regarder l'artiste.
Oui, il faut avoir un certain détachement. Alors, moi, c'est vrai qu'à force, j'ai jamais été éblouie au point de me dire, oh là, c'est Dieu et je suis à genoux et je suis bouche bée. J'ai pas ce tempérament-là, mais voilà, c'est parce que je suis comme ça. Et donc, j'ai toujours été assez froide. Donc, il faut déjà ça pas être groupie, parce que sinon, on se fait un peu avoir. Enfin, il faut quand même être assez froid dans l'analyse et rationnel.
Ouais.
Moi, je suis dans la fonctionnalité, dans l'organisation. J'essaie de faire en sorte que mon client soit le plus satisfait au maximum dans la journée, dans la soirée. Mais il reste un client et j'ai un business à faire tourner. Voilà. Et lui aussi. Donc voilà, c'est deux businessmen qui se rencontrent, on va dire.
Ah, c'est bien ça comme explication, pas être groupie. Qu'est-ce qu'il faut d'autre, hein?
Bah, du métier. Aujourd'hui, je ne suis pas celle que j'étais il y a 20 ans. Il faudrait avoir la connaissance que j'ai et avoir 30 ans. Là, je serais très performante.
Pourquoi? Pour l'énergie.
Ouais, pour être efficace sur le terrain encore plus que ce que j'étais. Mais il faut de la condition physique quand même pour tenir. Parce que quand on enchaîne des dates, quand on fait 6 dates dans la semaine, voilà, on se lève tôt, on se couche tôt. Moi, j'aime bien être tôt le matin. Enfin, j'aime bien être avec mes équipes
c'est
le matin.
Alors,
je viens pas à 6 heures à l'arrivée des camions, mais j'aime bien être là à 8h30, 9h. Accompagner, enfin être présente, voilà, être présente dans l'équipement.
Mais vous restez toute la journée, jusqu'au soir.
Oui. Après, souvent, je délègue la fin du concert. Souvent, c'est mon administrateur, c'est Eric qui va fermer le bâtiment avec le public, à qui je confie la sortie et pour être là de nouveau le lendemain matin.
Ça veut dire vous rentrez chez vous vers quelle heure?
11h30 minuit, 11h30, ouais.
Alors comment on concilie la vie de famille? Évidemment, on a envie de vous demander ça.
Bah moi j'ai un garçon qui est grand maintenant, qui a plus de 30 ans, donc je vis avec un homme qui est également qui est directeur de production, qui vit dans le métier. Mais à l'époque, mon fils aux Eurockéennes, bah il a fait toutes les éditions avec moi. C'est-à-dire que la première année, en 1989, j'étais enceinte, mais je n'étais pas au courant que j'étais enceinte. Donc, en tout cas, il a vécu le festival dans mon ventre. Et puis ensuite, quand il était petit, il venait voir le montage, il était avec son père en tant que bébé, il était porté, et puis il regardait ce que sa maman faisait. Puis au fur et à mesure, il a grandi, puis à 10-12 ans, il commençait à venir à bricoler avec moi l'aménagement des loges, la pose des moquettes, les fleurs, les trucs, donc il nous aidait. Et puis maintenant, il est dans le métier, il est programmateur de festival, donc il est tombé dedans quand il était petit.
On peut le dire.
Mais j'ai pas de contraintes familiales aujourd'hui. C'est plus simple, c'est sûr.
Oui, mais pour autant, vous avez peut-être envie de faire autre chose par moment.
C'est un métier passion, mais je fais autre chose. Mais vous savez, c'est des périodes, la programmation. Nous, on va avoir une période encore forte jusqu'à fin mai, début juin. Et ensuite, ça va se calmer, ça va reprendre à la mi-septembre. Donc, on a quand même une grande période d'été où on peut couper et faire autre chose, même si on prépare aussi la saison.
Vous allez aux Européennes,
Ouais. je vais voir un peu les festivals, je vais voir les copains. Mais c'est vrai que ce n'est qu'à ce moment-là, quand je me déplace, que j'arrive à voir un concert et m'immerger dans l'ambiance d'un concert, d'un artiste que j'ai envie de voir, même s'il a été programmé au Zénith dans l'année. Je n'arrive pas à regarder un concert parce que je suis pas tranquille. Enfin, je suis pas tranquille, tout se passe bien, on n'a jamais d'accident. Je touche du bois et du singe, mais tout se passe bien. Mais en tout cas, on est aux affaires, donc on n'est pas disponible.
Pour se détendre et regarder et profiter.
Voilà, à Nancy, je suis allée voir Placebo dernièrement, mais j'étais totalement dans le concert. J'étais pas aux affaires. Donc,
mais quand vous allez ailleurs.
Oui, alors les défauts que je vais regarder, ça va pas être forcément dans la salle de spectacle et le concert, parce que l'artiste, lui, il fait toujours le même show, on va dire, quand il est en tournée. Mais je vais avoir un regard sur
l'accueil
du public,
la
propreté, le bar, les produits, le prix de vente, la sécule, le comportement du personnel vis-à-vis du public, ce genre de choses.
Est-ce que ça a changé depuis le temps que vous faites ce métier? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui?
Ce qui a changé, c'est la discussion financière qu'il y avait beaucoup moins avant. C'est le plus gros morceau. Et aujourd'hui, les artistes sont de plus en plus producteurs, c'est eux-mêmes qui se vendent. C'est-à-dire qu'avant, ils passaient par des producteurs et qui organisaient leurs tournées. Aujourd'hui, les artistes, ils ont enlevé un relais.
Ouais.
Donc, ils sont souvent avec une assistante, un assistant, mais en tout cas, c'est eux qui sont aux manettes et qui analysent les devis et les coûts. Parce que les intermédiaires coûtent de plus en plus cher et donc les marges se réduisent.
S'y connaître, c'est
donc, ça de s'y connaître et puis d'être plus proche de l'argent parce que les marges sont plus difficiles. Les artistes négocient aussi avec des avocats maintenant, c'est-à-dire que quand un artiste décide de partir, de faire une tournée, il va peut-être s'adresser à 2-3 producteurs qui sont en France. Et ce sont les avocats qui vont négocier pour eux. Donc, les producteurs...
Donc, c'est devenu plus business
qu'avant.
Ouais,
c'est du business, ouais. Les producteurs, ils vont essayer d'obtenir le plus possible pour leur artiste. Mon artiste veut telle lumière, tel son, tel truc, tel décor, tout ça.
Le tout dans une enveloppe.
Le tout, voilà.
Ouais.
Il veut une garantie de cachet de temps. Et donc, je vais au plus offrant. Et puis après, le producteur, quand il monte sa tournée, il dit « Oh là là, mais finalement, il m'a demandé tout ça et je vais avoir du mal à boucler mon budget. » Et puis du coup, après, il appuie sur les salles.
Il y en a qui sont encore dans la folie des grandeurs. Moi, je pense aux shows de Johnny Hallyday ou des choses comme ça.
Oui, ça se fait surtout sur les stades. Le stade de Mylène Farmer, je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Mais en ce moment, la mode, c'est les scènes centrales. Donc, on a eu Louise Attaque en scène centrale. Jeudi, on a Redouane Bouguerraba en scène centrale. Donc ça, c'est un nouveau toc des artistes. Sardou va faire une scène centrale à Paris. Il ne le fera pas en tournée. Paul Naref, par contre, en tournée au mois de juin, c'est une scène centrale aussi. Donc là, ça arrive. Et c'était un projet qu'on avait étudié pour Johnny Hallyday 2 ans avant son décès parce qu'il pensait repartir en tournée et on avait étudié une scène centrale pour lui. Il avait commencé à étudier ce format, donc pour nous c'est totalement nouveau. Voilà,
donc
on n'est pas adapté parce qu'on a un côté, on a des gradins et de l'autre côté c'est le mur, c'est le fond de scène.
Ouais.
Donc on a sur Louise Attaque, c'était un peu surprenant, on avait 6000 personnes dans un gradin et en face rien et une scène au milieu et du public qui est tout autour, mais il y a quand même un mur où il y a rien.
C'est quoi, c'est des investissements éventuels à prévoir, c'est des changements.
Oui, peut-être. Peut-être avoir à demeure un gradinage, un gradin, pas qu'on laisse en permanence, qu'on monte et qu'on démonte, mais c'est des coûts d'investissement déjà, puis de montage et de démontage. Donc voilà, c'est la réflexion que l'on a. Si effectivement ça se perdure, il faudra peut-être, pour maintenir le niveau d'accueil, éviter que ces artistes-là zappent votre salle et aillent que dans les arénas, parce que là, voilà, c'est des réflexions qu'il faut avoir pour le futur.
Et le public, il a changé?
Alors le public, on a vraiment cru qu'il n'allait pas revenir après le Covid, donc on a une année, début d'année 2022 un peu difficile, Et puis finalement, on a fait une grosse année 2022 en fréquentation. Et là, en fin d'année 2022, on se disait que l'année 2023 allait pas être terrible et que les ventes étaient pas bonnes, la projection était pas bonne. Et finalement, on fait quand même des scores. Donc, autant avant le Covid, les gens achetaient longtemps à l'avance, on avait vraiment une vision précise de la jauge qu'on allait faire 6 mois avant. Autant là, maintenant, les gens attendent le dernier moment parce que ils ont peur des annulations, ils ont peur des reports, ils ont peur de tout ce qu'on a vécu pendant la fermeture. De nos équipements. Donc voilà, maintenant les gens achètent au dernier moment. Et on a une vision à 10 jours maintenant.
Ouais. À 10 jours, ouais, 10 jours. Ouais. Alors qu'avant c'était à 6 mois.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que d'une jauge qu'on va peut-être adapter pour 3000 personnes pour un artiste, d'un seul coup on va passer à 5000.
Et vous ouvrez comme ça jusqu'à ce que vous
puissiez. Oui, on sait faire. Ça, c'est notre métier, on sait s'adapter.
Si à 3000 vous voyez que c'est plein, vous pouvez augmenter la jauge.
Absolument, parce qu'on peut faire jusqu'à 12 000 ou 8 000 assis. Et si l'artiste a vendu 4 000 et qu'un mois après, on est à 8 000, on sait faire, on ouvre les rideaux, on ouvre, voilà. On pousse pas les murs, mais c'est tout un jeu de rideaux et de jauges qu'on sait faire avec les Zéniths. Ouais.
Et est-ce que le virtuel, est-ce que toutes ces nouvelles technologies, ça existe?
On a eu un ou deux spectacles. Ça nous a fait peur, ça nous a vraiment fait peur. Et finalement, la mayonnaise, elle prend pas. Les gens viennent voir le live, viennent vibrer avec l'artiste.
Presque, ils veulent
viennent
toucher,
sentir. La communion avec l'artiste, la communion dans le public avec l'artiste, c'est quelque chose qu'on peut pas remplacer avec des images et des hologrammes. Et voilà.
Ouais. Pourtant, on voit quand même de plus en plus de spectacles avec des images.
Oui, alors là, on a fait Johnny Symphonique, par exemple. Alors, c'était assez émouvant parce que donc c'était Kassar qui jouait sur tous les morceaux de Johnny, qu'on entendait la voix de Johnny, les chants de Johnny et les photos de Johnny, les images retransmises sur les écrans géants. C'était assez prenant, très très beau, très très beau concert. Mais bon, donc, c'était pas Johnny, quoi.
Mais je pense à Starmania aussi, qui a utilisé beaucoup de...
Oui, mais il y a quand même des artistes, Starmania. Enfin, il y a un support vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus des décors en carton-pâte. C'est de la vidéo et on projette sur la vidéo. Mais il y a quand même des artistes sur la scène.
Donc pour vous, l'avenir, ce sera toujours un artiste sur scène qui sera peut-être entouré de plus ou moins d'effets spéciaux.
Oui, c'est ça.
Mais lui reste le cœur du projet.
Les effets spéciaux font partie
service.
Intégrante maintenant. Ouais. Ouais. Les écrans, c'est vraiment partie des spectacles. S'il n'y a pas d'écran, là, les gens ont l'impression d'avoir rien vu, quoi.
Et comment on s'améliore? Comment on améliore le fait que celui qui est tout derrière voit aussi bien que celui qui est tout devant?
Alors, au Zénith, quand vous êtes dans le troisième gradin, au dernier rang du troisième gradin, vous êtes quand même 80 mètres de la scène. Donc, c'est très loin. Les producteurs le savent et donc ils mettent des écrans géants et des délais de son. C'est-à-dire qu'on peut avoir des report de son dans les gradins pour que les derniers rangs entendent aussi bien que les premiers rangs. Heureusement, ils comptent aussi sur un public qui va revenir d'une année sur l'autre, donc dans la tournée d'après, ou qui va avoir un bouche à oreille important et qui va pouvoir remplir une jauge un peu plus tard ou une autre ville. C'est important de pouvoir vendre derrière un disque ou un DVD ou des t-shirts.
Et comment vous fidélisez le public pour qu'il revienne à Strasbourg, qu'il n'aille pas ailleurs, en Allemagne par exemple?
C'est la programmation. Alors c'est évidemment l'accueil que l'on a, la politesse de notre personnel, le choix dans les bars aussi, peut-être que ça joue. Le public, s'il veut aller en Allemagne voir un artiste international et pas le voir au Zénith, il va peut-être jouer là-dessus, sur l'accueil qu'il connaîtra. Le parc aussi qui est gratuit. On essaye en tout cas de s'améliorer. En 15 ans, on s'est amélioré dans les accueils publics, l'accueil des personnes à mobilité réduite, les personnes à handicap, les personnes qui ont des problèmes de son, d'audition, il y a les bouchons d'oreilles, un tas de choses que l'on essaie de mettre à disposition du public pour qu'il soit le plus satisfait possible, la propreté du bâtiment.
Vous aussi, vous parlez de parcours client?
Oui, on parle de ça, oui, absolument.
Il faut qu'il garde une
parcours bonne... spectateur, on va dire.
Parcours spectateur, oui, parcours spectateur. Et qu'il garde une bonne impression.
Oui. On fait des enquêtes, donc on sait ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, oui. On essaie de s'améliorer chaque année. C'est un engagement qu'on a aussi avec notre collectivité. On a signé un contrat sur 10 ans avec des engagements, avec des investissements. Là, dernièrement, nous avons refait la totalité des éviers et des sanitaires dans le hall. Ils avaient 15 ans, ils avaient vécu, le bois avait gonflé. Nous avons mis les éviers en résine qui sont vraiment d'un aspect très moderne. Voilà, on essaie de s'améliorer au fur et à mesure. Les bâtiments vieillis, donc.
Et ça, c'est vous qui demandez, c'est vous qui voyez, c'est vous qui proposez ces améliorations.
On est chargé d'entretenir le bâtiment, de l'améliorer. Et si on casse quelque chose, on doit le remplacer. Ouais, ça, c'est à notre charge, c'est pas à la charge de la collectivité. Ouais.
Alors, en 2014, la Légion d'honneur.
Ah. Oui, je me demandais ce que vous aviez en 2014. Je me disais, qu'est-ce que j'ai programmé aux Européennes?
Qu'est-ce que j'ai fait en 2014?
J'étais pas aux Européennes, j'étais au Zénith. La Légion d'honneur, mais écoutez, un coup de fil un matin de la préfecture. On a le plaisir de vous informer que vous avez été choisi pour vous remettre la Légion d'honneur. Ils ont, je ne sais pas comment ça marche, s'ils vous suivent sur un parcours ou si quelqu'un vous recommande, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils m'ont décrit la carrière que j'avais faite, la reprise des études lorsque j'avais 40 ans pour passer un master parce que j'avais pas eu le bac. Et donc, j'ai fait 3 ans d'études parce que j'en ressentais le besoin. Et de passer, de faire du ménage dans les hôtels, à diriger un des plus grands zénith de France en passant par les Eurocaines de Belfort. C'est vrai que ça les avait marqués.
Et c'est donc, c'est ce qu'ils vous ont dit.
Ouais. J'ai fait partie du contingent de Pâques 2014, de la Légion d'honneur de Pâques 2014.
Bon, c'est quand même une fierté.
Ah, j'étais très fière. C'est le grand chancelier qui m'a remis la Légion d'honneur le 13 juillet 2014. J'étais très très émue, évidemment. C'est quelque chose de très fort.
Votre famille devait être fière.
Ah oui, absolument. J'ai appelé mon père tout de suite, il était très très fier. Après, je porte la Légion d'honneur dans des circonstances particulières.
Vous la portez pas tous les soirs ?
Non.
Pour négocier avec les producteurs ?
Non.
pourrait aider ?
Je n'en fais pas le cas du tout. Ça se garde, c'est personnel. Il n'y a pas grand monde qui le sait finalement.
Là, tout le monde va le savoir. Alors justement, ces études que vous reprenez, pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment que ça vous manque d'avoir...
Et en fait,
peu d'études, parce que vous avez arrêté quoi, après le bac ?
Alors, je n'ai pas eu le bac. En 83, je n'ai pas eu le bac. Donc, j'ai eu l'occasion soit de reprendre une année de terminale, ce que je pensais faire, soit faire une formation de maître-nageur sauveteur. J'avais l'occasion de faire cette formation qui était payée toute l'année avec un contrat derrière de maître-nageur. Et donc, j'étais STJ. Si je suis prise, je fais maître-nageur, sinon je reprends une année de bac.
Ah, d'accord.
Et puis, j'ai été prise. Voilà. Donc, j'ai commencé ma carrière dans la natation, maître-nageur au début. J'entraînais déjà des enfants et puis la possibilité de rejoindre ensuite un entraîneur de haut niveau à Lyon. Et au bout à 40 ans, j'avais appris beaucoup de choses sur le tas de façon empirique aux Eurocaines de Belfort. Et je sais pas, il y a une force en moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, qui m'a incité à faire une valorisation des acquis pour passer le bac, une licence, mais pour aller en master. J'avais vraiment envie de passer un master de management et de gestion d'entreprise. Pas de spectacle, mais en tout cas de gestion, parce que j'avais les mains dedans aux Eurocaennes et j'avais appris beaucoup de choses, mais des choses que je comprenais pas forcément pourquoi je les faisais de telle sorte. Et donc, ça m'a permis de passer un cap dans la compréhension. Et puis, j'ai eu un master au bout de 3 ans avec mention. Et les 6 premiers mois ont été très difficile. Je me suis dit que j'avais tapé trop, que j'y arriverais pas, parce qu'il fallait remettre le cerveau quand même
à apprendre, à
l'école.
C'était
en présentiel, en cours du soir le vendredi et le samedi toute la journée, pendant 3 ans.
En plus du boulot de la semaine. De votre fils, parce que vous aviez déjà votre
fils. Oui, il était petit, et puis il fallait apprendre par cœur, et il fallait faire les exercices, et c'était du boulot le soir à la maison. Mais j'ai eu un master à plus de 40 ans passé. Et puis heureusement, parce que finalement, pour postuler au Zénith de Strasbourg, il fallait avoir un master. Ça m'a servi aussi pour ça, même si c'était pas pour ça forcément que je l'ai passé, mais ça m'a aidé à obtenir ce job.
Et donc, vous encouragez les gens qui veulent peut-être changer de boulot, changer de voie, à refaire comme ça des études
Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Je pense qu'il y a beaucoup de fonds de formation. Les employeurs ne peuvent pas trop refuser. Si quelqu'un chez moi me disait « je veux être boulanger demain, je veux faire une formation », je crois qu'on est un peu obligé quand même de les accompagner. Et je pense que il faut aller au bout de ses envies, de son goût. C'est possible aujourd'hui, parce que c'était plus difficile.
Donc ça, c'était hyper courageux, parce que c'était où ? À Strasbourg, vous faisiez ça ?
Alors, j'habitais Belfort à l'époque, parce que j'étais aux Eurocaennes de Belfort, et donc je suivais les cours à Mulhouse et à Strasbourg, à l'université.
Donc, ici, il fallait venir passer le week-end, globalement, ici.
Ouais, mais je suis pas morte.
Non, mais vous avez beaucoup d'énergie, je pense.
Oui.
Encore une fois...
Il fallait avoir la force morale, c'est sûr.
Oui, c'est ça.
Même s'il y a des moments de doute... Mais on se raccroche ensuite et puis...
Vous avez un mental de sportif ?
Oui, je pense que oui. Oui. Ouais.
Donc mine de rien, cette formation, elle a été aussi ultra importante. Cette formation...
Oui, elle renforce dans le caractère et puis elle m'a permis d'être plus forte, de confirmer ce que j'avais appris sur le tas et de pouvoir... En fait, en France, moi j'étais directeur général adjoint à ce moment-là des Eurocaennes et j'avais pas eu d'études. Enfin, je me disais, mais je suis là, mais comment j'ai fait pour être là ? Alors j'avais appris sur le tas, mais sans diplôme.
On appelle ça le syndrome de l'imposteur,
c'est ce qu'on a un peu en France, Donc, je me suis dit... prouve-toi que tu es capable d'avoir un diplôme pour justifier ce job que tu as. C'est un peu ça, je pense.
Et vos parents, ils étaient dans le sport ?
Mes parents ont fait du sport, mais oui, mon père a fait de la compétition en sport. Il était pongiste,
je pense. Ouais, du ping-pong.
Du ping-pong, voilà.
Ma mère faisait tennis de table.
Tennis de table, hein, voilà. Ouais. Ma mère a fait beaucoup de gymnastique. Et on a toujours, oui, ils ont fait. Après, ils ont fait beaucoup de vélo, comme ça.
Donc ils vous ont poussé quand même dans cette voie-là.
On est une famille de sportifs. Ouais. Mais ça forge un moral, ouais. Et même ici, moi, j'ai toujours un peu un management de sportive, avoir une émulation comme ça, mettre un petit challenge, même avec les barman. Bon, bah si vous faites tel chiffre d'affaires sur les bars, bon, vous avez une petite carotte avec les collègues dans les autres salles. Voilà, on essaie de se challenger sur dire tiens sur tel concert, combien t'as fait de monde et là t'as fait combien de monde et là t'as fait combien en bar. Donc on essaie de se challenger.
On met de l'adrénaline.
Ouais, mais c'est de l'émulation positive. Mm-hmm. Hein, c'est de la compétition.
Ouais, tout à fait. Bah, c'est un très très beau parcours.
Bonjour, merci.
Alors ce podcast s'appelle le podium.
Oui.
Aujourd'hui, on va dire que vous êtes en haut du podium. Ne levez pas les yeux au ciel, c'est sûr. Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur ce podium? Alors, vous pouvez faire monter qui vous voulez, des personnes qui ont changé peut-être votre vie, des personnes qui vous ont accompagné, des personnes que vous admirez, je ne sais pas, ça, c'est votre podium.
Mais je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai toujours eu une équipe autour de moi. Ouais. Diriger, c'est s'encadrer de compétences. Et aujourd'hui, c'est Vincent, c'est Jordan, c'est Eric. C'est eux qui m'accompagnent sur le podium. C'est mon équipe que j'ai aujourd'hui au Zénith. C'est le club des quatre du Zénith. Oui, oui. On a subi le Covid. On était 6. On s'est retrouvés à 4 après 2 licenciements. On a relevé le défi de gérer cet équipement à 4 personnes. Et le podium, on est à 4 dessus. Je ne suis pas toute seule.
Et le Covid, ça a été un gros, gros coup dur?
Oui, c'était dur parce que j'étais la seule à tenir le Zénith parce que la direction avait mis au chômage partiel tout le monde.
Ah oui.
Et donc les directeurs de nos salles avaient pour mission de maintenir le lien avec tout le monde. Et donc je venais ici une fois par semaine, je faisais le tour de mon 5000 m² et je me sentais un peu seule, j'étais avec les oiseaux et c'est vrai que c'était un peu glauque quand même. On a été les premiers à fermer et les derniers à ouvrir parce que même janvier 2022, on n'était pas encore ouvert avec les jauges. Nous on a fermé en février 2020 parce qu'on avait des grandes jauges à 5000 et ensuite toute la France a fermé vers la mi-mars.
C'était mi-mars,
voilà.
Ouais.
Et nous on avait du Pokora, on avait que des gros jauges à 5000, donc c'était interdit. Donc on a fermé très tôt et on a ouvert les derniers. Le spectacle, enfin les événementiels en général, ont été vraiment très touchés.
Trois confinements avant que vous puissiez réouvrir.
Oui, c'était très très difficile. Et de maintenir tout le monde à flot, d'appeler tous les prestataires, de garder le lien avec tout le monde finalement.
Garder le rythme.
Ouais,
ça doit être difficile d'arrêter comme ça, plus de rythme,
ouais,
et puis revenir. Ça doit être assez difficile.
Et relancer la machine, et redonner confiance, et retrouver les équipes, les noyaux qu'on forme un peu. Autant on a un petit noyau dans les bars, un petit noyau chez les hôtesses, à la sécu. Donc on a eu des pertes, on a des gens qui ne sont jamais revenus, mais on a quand même réussi quand même à retrouver la fidélité des plus anciens, on va dire. Et le Covid a été pour tout le monde, je pense.
Ensuite, il faut reconquérir le public.
Voilà, donc 2021 était difficile, la programmation était pas complète, il y a eu encore des reports, il y a encore eu des annulations, donc redonner confiance au public, c'était le plus dur.
Ouais.
Et puis l'année dernière, en 2022, le public,
il avait envie. Pour redonner confiance, il a fallu faire une programmation différente.
Il a fallu surtout répondre au public, leur dire « vous inquiétez pas, vous allez être remboursé, vous inquiétez pas, il va être reporté », écrire à tout le monde, répondre vraiment à tout. Moi, je répondais aux mails, tous les mails qu'on avait, tous les jours, des gens qui s'inquiétaient, est-ce que je vais être remboursé? On n'a pas été. Les points de billetterie, les FNAC et compagnie, tous les gens qui vendent les billets, ils ont mis beaucoup de temps à rembourser les billets. Et donc, on a eu un gros boulot pour redonner redonner confiance au public. Ouais.
Plus ensuite les rassurer sur l'hygiène qu'il allait y avoir dans un espace.
Les protocoles sanitaires, les fouilles, le pass sanitaire, c'est vrai qu'on a presque oublié, pourtant c'est pas si vieux, mais on contrôlait les gens avec le pass sanitaire.
Ouais, c'est dingue quand on y pense.
Donc on avait trois contrôles, le pass sanitaire, la sécu, le billet, le truc, c'est déjà loin, mais...
Et avant ça, il y avait les attentats.
Et voilà. En fait, depuis 2015... Il y a toujours eu quelque chose. Il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les grèves des smirmors, voilà, le Covid. Enfin, voilà, on subit tous les ans ou tous les deux ans quelque chose dans l'événementiel, dans le loisir.
Mais alors, vous allez vous arrêter? Vous allez vraiment prendre votre retraite?
Ben, j'arrive bientôt, je suis au bout. En fonction de ce qu'aura décidé le gouvernement avec la réforme aujourd'hui. Mais oui. Moi, je suis en passation actuellement. Ce qui me motive, c'est de commencer à transmettre. J'aime ça. J'ai donné beaucoup de cours dans les universités.
Pour des formations
sur des formations de gestion administration de spectacle en licence.
D'accord.
Donc, je suis intervenue à Metz, à Strasbourg, à Mulhouse, à Montbéliard. Et là, je suis en plein dedans maintenant. C'est du concret. Et donc, je transmets à l'équipe autour de moi. Et puis, ça me plaît bien. Et dans les sites aussi dont je supervise un peu les équipes, voilà, je suis responsable qualité du groupe. Et donc, je transmets un peu la norme, les process. Je certifie les sites en normes ISO 9001 et 2021, et donc voilà, je transmets ça me plaît. Place aux jeunes, non mais c'est bien, j'ai pas envie qu'on me dise de partir. Donc ce qui est plus difficile, c'est moi j'ai toujours 30 ans dans ma tête, mais le corps il suit moins bien, on a plus de mal à récupérer, même si j'ai encore une bonne hygiène de vie et une résistance, mais on sent quand même les années passent et c'est plus difficile. Mais c'est la vie, tout le monde va y passer. Enfin, je crois qu'on a la chance de vieillir, c'est ce qu'il faut se dire en fait. Quand on a un petit coup de blues, on se dit, mais t'as la chance de vieillir, il y en a qui sont partis avant.
C'est vrai, ouais. C'est une belle fin. Merci Sylvie. Ouais.
Merci beaucoup, à bientôt.
Forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.